Vous écoutez Europe 1, il est 22h. L'heure du journal, Sophie Echen.
L'Amérique est un poison pour l'Irak, mais on n'a pas besoin d'eux, on a une armée. Un ordre et on rentre tout de suite dans l'ambassade pour les découper en morceaux.
La situation commence à s'apaiser légèrement en Irak, 24 heures après l'invasion de l'ambassade américaine par des manifestants pro-Iran. Europe 1 a pu se mêler à la foule de ces militants. Un drame en Alsace pour la nuit du réveillon, encore une fois à cause des pétards très utilisés dans l'est de la France. Bilan, un mort et 50 blessés.
Quand vous avez des engins qui sont très puissants, on a vraiment des lésions qui ressemblent à des lésions de guerre.
Le prix du tabac en hausse, mais la baisse des impôts sur le revenu. Dans ce journal, vous saurez tout ce qui change en ce 1er janvier 2020. Le pape présente ses excuses. Hier, il a vigoureusement repoussé une fidèle qui tentait de lui attraper le bras. Un mauvais exemple, reconnaît le souverain pontife. Une jeune femme retrouvée morte dans sa voiture ce matin près de Montpellier. Quatre de ses amis sont actuellement en garde à vue. Alerte gastro dans plusieurs régions françaises. Comment s'attrape la maladie et surtout comment s'en protéger? Vous saurez tout dans ce journal. C'est une tradition à laquelle se plient des centaines de personnes chaque fois qu'une nouvelle année démarre, le bain des givrés.
On démarre une bonne année 2020! Bonne année à tous! Couché à 6h ce matin, on est là, on est là!
Et ils sont là, vous l'entendez, dans une eau à moins de 10 degrés. Et puis c'est parti, lancez les paris. Quel joueur va rejoindre quel club? Le mercato d'hiver de foot a ouvert ses portes. Pas d'interview éco ce soir, nous parlerons culture avec Thierry Dagiral. Expo, cinéma, théâtre, après ce journal, on fait le tour des bons plans de sortie pour cette nouvelle année qui démarre. Avant cela, la météo bien sûr avec Laurent Cabrol. Enfin, pas de bourse ce soir, les principaux marchés financiers sont fermés en ce 1er janvier.
Europe 1.
La situation évolue d'heure en heure devant l'ambassade américaine à Bagdad, en Irak, alors que des milliers de manifestants irakiens, mais pro-Iran, se sont rassemblés devant le site hier. Certains ont même réussi à pénétrer dans l'enceinte. Ces militants ont commencé à quitter les lieux ce soir. Mais jusqu'au bout, la situation est restée très tendue. Le reportage de Gwendoline Debono à Bagdad pour Europe 1.
Nous avons jeté la honte sur l'Amérique. Voilà ce que répètent les miliciens pro-Iran en quittant la zone verte qui, depuis hier, n'a plus rien d'une forteresse. C'est à peine croyable. Le mur d'enceinte de l'ambassade américaine, peut-être la plus sécurisée du Moyen-Orient, est recouvert de graffitis. Plusieurs entrées sont brûlées. Les drapeaux des milices, considérés comme organisations terroristes par les États-Unis, flottent sur leur représentation diplomatique. Ce sont des bases de ces milices pro-Iran qui ont été visées par des frappes américaines dimanche dernier. Donald Trump ne mesure pas notre colère, dit un milicien devant l'ambassade.
L'Amérique est un poison pour l'Irak. Moi, je reste là. 5000 soldats américains ici. Mais on n'a pas besoin d'eux. On a une armée. Un ordre et on rentre tout de suite dans l'ambassade pour les découper en morceaux.
Dans le ciel, des hélicoptères américains Apache volent à basse altitude. Jusqu'à ce matin, ils étaient le seul moyen d'entrer et de sortir de l'ambassade pour le personnel ainsi que pour les soldats américains. Ce soir, les miliciens ont quitté les portes du bâtiment, mais ils ne sont pas allés bien loin. Sur ordre de leur chef, ils ont installé des tentes sur la rive du fleuve qui fait face à la zone verte. Notre but, dit un de leurs leaders, c'est qu'ici plus de sympathisants puissent nous rejoindre et reprendre notre message. Nous ne voulons plus un seul Américain en Irak.
Gwendoline Debono, envoyée spéciale d'Europe 1 à Bagdad, a noté que la France condamne fermement cette attaque contre l'ambassade des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly, aujourd'hui. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, devait se rendre en Ukraine pour une visite diplomatique. Il a reporté son déplacement pour suivre la situation en Irak. En France, la nuit du réveillon marquée par plusieurs drames. À Paris d'abord, où un jeune homme est mort, il est tombé du pont Royal près des Tuileries. Et puis en Alsace, dans le Bas-Rhin, ce sont une nouvelle fois les pétards qui ont causé de nombreux accidents. Pourtant, chaque année, les autorités rappellent les dangers de ces engins explosifs. 50 blessés dans le département au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et un jeune homme est mort, Charlotte Bechler.
Ce jeune homme de 27 ans est mort en manipulant un mortier vers 1h du matin. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l'accident. Ce que l'on sait, l'engin lui a explosé au visage alors qu'il le manipulait dans son jardin. Ici, en Alsace, c'est la tradition de la Saint-Sylvestre. Le passage à la nouvelle année se célèbre par des feux d'artifice et des jets de pétards. Cette nuit, leur mauvais usage a donc fait un mort, deux blessés graves et des dizaines d'autres victimes dans le Bas-Rhin. La plupart ont été blessés aux mains, des personnes mineures, même des enfants. Le docteur Étienne Rapp est spécialiste en chirurgie de la main à la clinique Réna à Strasbourg.
Quand les gens ont de la chance, il faut simplement bien nettoyer, réparer des petits traumatismes, de brûlures, ce qu'on appelle le blast, l'explosion du produit. Et puis quand vous avez des engins qui sont très puissants, vous avez la lésion typique, ce qu'on peut appeler la main de pétard typique, c'est vraiment ce qu'on appelle la première commissure. Vous avez le pouce qui est complètement soufflé. On a vraiment des lésions qui ressemblent à des lésions de guerre. Hein.
Le dernier bilan fait état de 50 personnes blessées par les explosions, mais il risque encore de s'alourdir. Habituellement, les Alsaciens tirent encore des pétards le 1er janvier et les admissions continuent aux urgences jusqu'au lendemain.
Charlotte Bechler, correspondante d'Europe 1 en Alsace, à Strasbourg la nuit dernière. La nuit a été émaillée de violence. De nombreux véhicules ont été incendiés. Dans le Nord, un homme de 38 ans mis en examen est placé en détention provisoire aujourd'hui à Cappelle-la-Grande, près de Dunkerque. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne lundi. Une autopsie de la victime doit avoir lieu vendredi. Selon le collectif féministe Nous Toutes, au moins 149 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2019.
Sophie Hechem sur Europe 1.
Pas mal de changements en ce 1er janvier. Économie, santé, environnement, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui baisse? On fait le point sur ces nouveautés avec vous, Maud Descamps.
Alors, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Hein. Tout d'abord, et comme chaque année, la réévaluation du SMIC qui passe de 1204 à 1219 euros net par mois, soit 15 euros de plus par mois hein, pour les 2,3 millions bénéficiaires. Côté impôts, il y a cette année une baisse de 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu. Hein. Ça représente un gain annuel de 350 euros en moyenne pour les 12 millions de foyers de la première tranche. Et pour les foyers de la deuxième tranche, eh bien, ce sera une économie de 180 euros. Et puis, il y a aussi la fin de la taxe d'habitation. 80% des foyers vont totalement en être exonérés. Et puis une autre baisse en ce 1er janvier, celle du tarif réglementé du gaz, moins 0,9%. Les tarifs d'électricité, eux, restent inchangés. Et puis il y a évidemment aussi les moins bonnes nouvelles. Si vous êtes automobiliste, le barème du malus est renforcé pour les véhicules qui émettent le plus de CO2, en particulier les SUV. Autre hausse, le prix du timbre qui baisse de 88 à 97 centimes d'euros. Et enfin, si vous hésitez à arrêter de fumer, eh bien c'est peut-être le bon moment puisque le paquet de cigarettes est passé depuis ce matin à 9,10 € voire 9,20 € selon les marques.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Toujours des perturbations dans les transports. Demain, 29e jour de mobilisation contre la réforme des retraites et la CGT appelle à durcir le mouvement. Demain, la moitié des TGV et des TER seront en circulation. Comptez un intercité sur 4 et 3 transiliens sur 10. À Paris, le trafic s'améliore nettement. 13 lignes seront ouvertes demain. Seule la 7 bis restera à l'arrêt. Si je vous dis Chantal Lobby, Gilbert Montagné ou encore Philippe Etchebest, ces trois personnalités ont désormais un point en commun. Ils font partie des 487 promus de la Légion d'honneur. C'est une tradition lorsqu'on démarre une nouvelle année. Le journal officiel a publié la liste des nouveaux nommés aujourd'hui et parmi eux, Jean-François Cirelli. Sa présence, Aurélie Herbemont, en a agacé plus d'un.
Oui, parce que Jean-François Cirelli est depuis 2016 président de la branche française de BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs du monde. Et depuis plusieurs semaines, eh bien BlackRock est accusé par l'opposition de défendre auprès de l'exécutif le principe des retraites par capitalisation. Alors, BlackRock s'en est défendu et l'exécutif, lui justement, explique la nécessité du projet de réforme actuel pour préserver notre système de retraite par répartition et ainsi éviter les fonds de pension privés. Mais pour la CGT, le Parti communiste, des élus socialistes, insoumis et écologistes, cette promotion de Jean-François Cirelli est un aveu, une provocation en plein conflit social autour des retraites. Polémique vaine et populiste, riposte Matignon. Le cabinet du Premier ministre met en avant le CV de Jean-François Cirelli qui lui vaut aujourd'hui sa promotion au grade d'officier. Lui qui, je le rappelle, est chevalier de la Légion d'honneur depuis 2009. C'est un serviteur de l'État depuis 35 ans, glisse un conseiller. Il est en effet haut fonctionnaire, ancien directeur adjoint de cabinet de Jean-Pierre Raffarin et ancien dirigeant de GDF Suez.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Un mea culpa aujourd'hui, celui du pape François, le souverain pontife qui a repoussé sèchement une fidèle hier soir lors de son bain de foule au Vatican, une femme qui lui a tiré le bras pour s'y cramponner. La vidéo a fait le tour du monde au cours des dernières heures lors d'Autriche.
Oui, le pape a perdu son sang-froid, clairement, hier place Saint-Pierre à Rome, après les vêpres, lorsque cette fidèle, installée au premier rang derrière les barrières de sécurité, lui a attrapé la main brusquement pour l'attirer vers elle. Le pape s'est retrouvé déstabilisé physiquement et il a riposté en lui donnant une tape sur le bras. Et sur son visage, on a pu voir à quel point il a été agacé par le geste de cette femme. À midi aujourd'hui, lors de la prière de l'Angélus, que le pape prononce traditionnellement depuis la fenêtre de ses appartements, François a parlé du thème de la patience et il a en effet présenté ses excuses.
L'amour nous rend patients. Tant de fois nous perdons patience et cela cela m'arrive à moi aussi. Je m'excuse pour le mauvais exemple que j'ai montré hier.
Alors, sur les réseaux sociaux, ces dernières heures, les avis étaient partagés. Certains comprennent que le pape ait agi et réagi brusquement hier parce que c'est un homme de 83 ans qui a de hautes responsabilités. Mais d'autres regrettent que le pape, qu'on a vu laver les mains, les pieds de migrants, par exemple, refuse ici la main d'une femme qu'il retient pendant quelques secondes. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. En 2016, lors d'un voyage, François avait déjà été déstabilisé après une messe par des fidèles enthousiastes qui le tirait par le bras. Il était même tombé sur le fauteuil d'un jeune homme handicapé. Le pape peut aussi avoir un coup de sang, disent certains spécialistes du Vatican. C'est la preuve qu'il est un homme comme les autres.
Lors d'Autriche, le bilan s'alourdit. En Australie, où les flammes continuent de ravager le pays, 8 personnes sont mortes en 48 heures. Cela porte à 17 le nombre de victimes depuis le début des incendies. Les secours apportent de la nourriture aux Australiens et aux touristes. En ce moment, des milliers de personnes sont bloquées en bord de mer dans le sud-est du pays. Retour en France, où une jeune femme de 22 ans est morte ce matin, tuée d'une balle dans la tête. Elle a été retrouvée au volant d'une voiture garée sur le parking d'une discothèque près de Montpellier. 4 personnes de son entourage sont actuellement en garde à vue. Marion Dubreuil, ils étaient venus fêter le réveillon ensemble.
Oui, un petit groupe d'amis, 3 garçons et 2 filles venus spécialement d'Avignon en voiture pour fêter le réveillon à Montpellier. Ils passent la soirée en discothèque, une soirée alcoolisée qui dure jusqu'au petit matin. La suite du scénario reste floue, mais à 6h30 ce matin, la jeune femme de 22 ans est retrouvée morte au volant de sa voiture, garée à 300 mètres seulement de la boîte de nuit. Une balle dans la tête, une arme à feu est retrouvée dans un sac à proximité de la voiture. Les 4 amis de la victime sont rapidement placés en garde à vue, mais au départ, il est impossible de les interroger compte tenu de leur état d'ébriété, explique le procureur de la République de Montpellier. L'un des suspects a finalement reconnu dans l'après-midi être le propriétaire de l'arme à feu. D'après les premières constatations, le coup de feu a été tiré à l'intérieur de la voiture. S'agit-il d'un accident lié à la manipulation d'une arme à feu sous l'emprise de l'alcool ou bien d'un meurtre à bout portant ? Les auditions vont se poursuivre toute la soirée.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Echen. Alerte à la pollution aux particules fines dans le Grand Est. 6 départements sont concernés. La Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes, la Marne, l'Aube et puis le Bas-Rhin où il va falloir lever le pied. La vitesse sur les routes du département est abaissée de 20 km/h demain. Attention également à l'épidémie de gastro qui sévit dans plusieurs régions de France. La Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et la Provence-Alpes-Côte d'Azur principalement. Alors comment s'attrape la maladie et que faire en cas de contamination? Quelques éléments de réponse avec le docteur Vincent Valenduc, médecin généraliste à Paris.
À un moment donné, vous avez dû croiser une personne déjà contaminée par la gastro-entérite. Soit vous lui avez serré la main, soit vous avez touché un objet qu'elle a déjà touché ou un aliment. Et puis vous avez mis votre main à votre bouche. C'est là que vous avez été contaminé par le virus de la gastro-entérite. Alors en fait, il y a des règles hygiéno-diététiques. Mais l'une des plus importantes, c'est l'hydratation et l'alimentation. Il va falloir fragmenter. C'est-à-dire que vous avez un peu le système digestif qui est un petit peu fragile. Et quand vous allez vouloir boire un peu, il va falloir fragmenter. C'est-à-dire prendre une gorgée, poser son verre, revenir 5 minutes plus tard, reprendre une deuxième gorgée. Il faut feinter l'estomac et l'intestin, il ne faut pas qu'il se rende compte que vous êtes en train de boire, sinon vous allez le payer et vous allez sans doute revomir. Pour l'alimentation, c'est un peu la même chose. Il faut fragmenter son repas, c'est-à-dire prendre une bouchée, attendre un petit peu, reprendre une deuxième bouchée, favoriser plutôt des aliments riz, pâtes, pommes de terre, éviter les fruits et les légumes, sinon ça va accélérer le transit, ça ne va pas être bon pour vous. Et ça, c'est un petit peu le secret, effectivement.
Le docteur Vincent Valenduc, joint pour Europe 1 par Benjamin Lévesque. C'est le moment d'enfiler votre maillot de bain. Encore une tradition en ce 1er janvier. Et celle-ci est destinée à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Comme chaque année dans le Nord, des centaines de personnes se sont jetées à l'eau pour le bain des Givrés, la mer du Nord qui n'est pas forcément à la température idéale. Maximilien Carlier.
On démarre une bonne année 2020. Bonne année à tous. Couché à 6h ce matin.
Plusieurs centaines de personnes à l'eau, déguisées pour la plupart. Bernard et Marie, père et fille, sont grimés en tahitienne. Ils viennent de se baigner. Température de l'eau, 9 degrés.
C'était super. Ça fait du bien. Elle est bonne.
Et on reviendra certainement l'an prochain.
Juste à côté, Laurent, coupe de champagne dans les mains, peignoir sur le dos, il sautille sur place.
J'ai les pieds glacés, complètement glacés. Je pense que si je jette une brique dessus, je ne vais pas le sentir. Tellement j'ai froid. C'est une façon de démarrer l'année sur les chapeaux de roue.
Ce bain des Givrés, c'est aussi le bon moyen de se retrouver entre amis, comme l'explique Marie.
Nous sommes carnavaleuses depuis X temps. Donc je pense que c'est normal qu'on soit ici. Et nous avons peut-être pas beaucoup de soleil chez nous, mais alors le cœur est là. Voilà. Même qu'on a fait la fête hier soir, qu'on a dormi que 2 heures, mais nous sommes là, un peu de grime. On est parti.
Et pour beaucoup, cette trompette va servir d'entraînement au carnaval de Dunkerque.
Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le nord de la France. On passe au sport avec du football et le gros mercato qui s'est ouvert. Ça commence très fort avec déjà deux gros transferts annoncés, Cyril de la Morinerie.
Oui, d'abord cet ancien joueur du PSG à la voix grave et reconnaissable. Et d'une très grande modestie. Je suis, dit-il, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je suis Zlatan Ibrahimovic, bien sûr. Le colosse suédois d'1m95 quitte Los Angeles. Il a signé au Milan AC. Le joueur de 38 ans est attendu en sauveur. Le grand Milan, 7 Ligue des Champions, n'est que 11e de la Serie A italienne. Autre gros transfert, également négocié par le célèbre agent Mino Raiola, celui du prodige norvégien Erling Haaland. L'attaquant de 19 ans, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, quitte Salzbourg. Il rejoint le Borussia Dortmund, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En France, ça ne bouge pas encore. Le PSG, justement, devrait conserver dans ses rangs Edinson Cavani. Mais Lyon va se renforcer pour compenser les blessures de l'attaquant Depay et du milieu Rennes Adélaïde. Olivier Giroud, qui n'était même pas cet après-midi sur la feuille de match avec Chelsea, fait partie des cibles prioritaires. Même si son agent m'indique ce soir qu'il n'y a rien de concret pour l'instant.
Cyril de la Morinerie et du foot, s'il y en a ce soir en Angleterre. 21e journée de championnat avec Arsenal qui reçoit le Manchester United. Et ce sont les Gunners qui mènent en ce moment 2-0. La météo, tout de suite avec vous Laurent Cabrol, et c'est un ciel couvert qui nous attend demain, Laurent.
Ben oui, c'est un temps gris qui s'annonce demain, gris et puis souvent pluvieux sur la région de la moitié nord. Je dis souvent, j'exagère quand même. Ce sont des pluies passagères, mais enfin qui seront assez ramassées. Alors sur le nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Bourgogne, la Vallée-de-la-Loire, le Poitou-Charentes et le Berry sont des régions qui seront touchées demain matin. Et dans l'après-midi, la Lorraine, l'Alsace et le Dijonais. Bref, sur une bonne moitié nord, prévoyez un temps quand même assez désagréable. Et puis sur les régions du sud, ce sera plus sec, mais avec un voile qui va gâcher un petit peu l'atmosphère. Mais c'est en hiver, c'est normal. Les températures maximales entre 5 et 14 degrés. 5 à Nancy, 8 à Bourges, 9 à Paris, 10 à La Rochelle, 11 à Bordeaux et 14 à Marseille pour les températures maximales. C'est donc une journée dans l'ensemble qui ressemblera un petit peu à celle d'aujourd'hui.
Et c'était votre météo signé Laurent Cabrol.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur les bonnes idées de sortie pour l'année 2020 avec Thierry Dagiral, accompagné des journalistes culture d'Europe 1. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Pendant les vacances, pas d'interview éco, mais on va parler culture ce soir avec vous Thierry Dagiral, de quoi nous donner quelques idées de sortie pour cette nouvelle année.
Et ils sont là même un 1er janvier, le visage frais, l'œil aiguisé, Diane Chénouda, Mathieu Charrier et Thierry Geffrotin. D'abord, bonne année à vous.
Bonne année à tous.
Avec vous, avec les expos à ne pas rater en 2020.
Oui, alors écoutez Thierry, ce sera un peu l'année Christo. Christo, vous en souvenez,
bien sûr,
c'était le Pont Neuf.
Exactement,
le Pont Neuf qu'il avait emballé à Paris.
Ouais.
C'était en 85. Tout le monde se souvient de cette image spectaculaire.
Bien,
le Centre Pompidou va lui consacrer une expo à Christo. Ce sera en mars, le 18 mars.
D'accord.
Christo, c'est un artiste incroyable qui a commencé par emballer des objets du quotidien avant de s'attaquer au monument. Eh bien, l'expo revient justement sur cet empaquetage du Pont Neuf qui a marqué les esprits. Comment le projet est né avec des dessins, des maquettes, des photos, des films. Et puis, on va également découvrir comment Christo, en 62, vivait à deux pas de l'Arc de Triomphe.
Ah oui?
Oui.
D'accord. Donc ça, c'est au Centre Pompidou. Ça commence le 18 mars.
Oui,
ça dure
absolument.
Jusqu'au
15 juin.
D'accord.
Et alors, actualité Christo, en septembre, il va réellement empacter l'Arc de Triomphe. C'est énorme. Pendant 15 jours.
D'accord. Voilà. Autre expo importante à ne pas rater, Diane,
alors,
c'est l'expo Matisse.
Absolument.
Ça, c'est en mai, mai de cette année.
Mais
2020.
On a encore un peu le temps. Matisse, dont on célèbre, vous le savez, le 150e anniversaire de la naissance. Et ce sera également au Centre Pompidou. Voilà, moi j'adore Matisse. Je me réjouis déjà de cette rétrospective. Chef-d'œuvre assuré en perspective, évidemment, dont certains n'ont jamais été vus depuis la grande expo Matisse au Grand Palais en 70.
Dans les agendas, qu'est-ce qu'on note également,
alors,
Diane ?
Cézanne, dès le 27 février au musée Marmottan.
Oui.
Monet, Renoir, Chagall en Méditerranée, une plongée dans le fameux bleu clin dès le 28 février à l'Atelier des Lumières.
D'accord.
Et Turner, ses peintures et merveilleuses aquarelles, ce sera dès le 13 mars au musée Jacques Marandry.
Diane, Europe 1 est partenaire d'une grande expo, l'expo Sarah Moon au musée d'art moderne.
Oui, ce sera en avril.
Ouais.
Et ce sera la première rétrospective de Sarah Moon dans un musée. Alors c'est qui Sarah Moon ? Elle est française, c'est une grande photographe de mode, surtout connue comme telle depuis la fin des années 70. Elle a beaucoup travaillé travaillé pour Cacharel et aussi pour les grands designers japonais. Elle a d'ailleurs beaucoup de succès au Japon. L'expo explore là une autre facette de son travail, notamment son travail au cinéma. Alors évidemment, c'est des films assez confidentiels. On a par exemple des adaptations de contes de fées comme Le Petit Chaperon Rouge, etc. Mmh. Tout ça dans un espèce de romantisme noir que l'on retrouve également dans ses photos. On en a plus de 200 qui seront exposées là dans l'expo. Photos d'animaux, plantes, fleurs, paysages, dans un espèce de flou artistique que j'adore, moi, une espèce de brume très poétique comme ça. Et donc, Sarah Moon, c'est au Musée d'Art Moderne à partir du 24 avril.
Une expo à retenir, elle est en région.
Alors, s'il y en a une à retenir, c'est celle consacrée à un peintre que j'adore, moi, personnellement. C'est le peintre espagnol Sorolla. Ouais. Il peint, comme personne, les bords de mer, notamment à Biarritz. Bon, c'est chez moi, hein, Biarritz. Bon. Les bains de mer, l'été, les mères et leurs enfants, comme ça. C'est très, très, très beau. On sent la matière de la peinture, on sent la lumière dans ces toiles. Il y a un souffle lyrique, comme ça, qui est fabuleux.
Et puis, les côtés one-man show.
Alors, évidemment, le grand retour de Gad Elmaleh.
Ah oui, le retour.
Bonjour à tous. Je suis très, 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 très heureux de vous annoncer que je reviens sur scène tout seul dans mon nouveau spectacle à partir du printemps prochain. Je serai installé à la Cigale pendant plusieurs semaines et en tournée partout en France. Voilà, ça va faire 5 ans que je ne suis pas monté seul sur scène en France. Pendant ces 5 années, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai donc beaucoup de choses à vous raconter. J'ai envie de les partager avec vous. Vous m'avez manqué beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai hâte de vous retrouver.
Voilà,
je vous aime très fort, je vous embrasse fort. Je vous dis à très, très vite. Dans votre ville et à Paris, à la Cigale.
Voilà, Gad Elmaleh hein, qui annonçait son comeback il y a quelques jours sur Twitter.
Ouais. Évidemment, à la Cigale, 29 septembre.
Après les accusations de plagiat, ça va sans doute nourrir son spectacle, on le pense. Un spectacle qui s'appelle D'ailleurs, et ça sera en tournée dans toute la France à partir du 28 avril.
Ok, on va parler maintenant cinéma avec vous, Mathieu Charrier.
Oui.
Côté cinéma, il y a beaucoup de rendez-vous attendus en 2020, à commencer par le retour du plus célèbre des agents secrets.
Trop facile.
Bah oui.
James Bond, Sir James Bond, Mourir peut attendre. Hein, c'est le titre de ce 25e opus au cinéma. Le dernier en principe pour Daniel Craig, vous le savez. Et le premier dans lequel le matricule 007 sera porté au moins une partie du film par une femme. On en a beaucoup parlé, incarnée par l'actrice Lashana Lynch. James Bond aussi a besoin de se réinventer, il faut dire. On ne sait pas encore qui succédera ensuite à Daniel Craig. Mais en tout cas, on a hâte de découvrir ce James Bond. C'est pour le 8 avril, il y a déjà la bande-annonce en ligne, ça cartonne. Allez-y. Si je reviens un petit peu plus proche de nous, Sam Mendes, qui justement avait réalisé 2 James Bond, j'ai travaillé ma transition. Sam Mendes sort le 15 janvier un film qui s'appelle 1917, qui suit le parcours de 2 jeunes soldats britanniques dans l'enfer de la Première Guerre mondiale et qui est tourné en un seul plan séquence, sans aucune couple visible. Allez-y, c'est absolument impressionnant. C'est une expérience immersive qui est prodigieuse. Donc vous notez ce film dans vos agendas. 1917, en plus, c'est un film qu'on est très fiers de soutenir ici à Europe 1.
Mathieu, l'année marquera aussi le retour de franchises bien connues.
Oui, Mulan par exemple, vous en rappelez, il y aura une adaptation du dessin animé en images réelles, toujours signé Disney, ça ce sera pour fin mars. Puisqu'on est dans la galaxie Disney justement, on va avoir aussi droit au premier film consacré à l'histoire d'une super-héroïne issue de l'univers Avengers. Vous savez que ça appartient à Disney, ce sera Black Widow, ça sera porté par Scarlett Johansson. Et puis Wonder Woman reviendra également en juin. On a aussi beaucoup parlé de Star Wars en fin d'année pour la sortie de l'épisode 9. Eh bien, il va y avoir un roman qui a beaucoup inspiré Star Wars. Je ne sais pas si vous savez, Dune, vous l'avez peut-être lu, de l'écrivain Frank Herbert. Eh bien, il y avait une première adaptation signée David Lynch qui était sortie en 65. Ça n'avait pas très bien marché, mais Denis Villeneuve retente le coup. Si c'est signé Denis Villeneuve, à mon avis, ça va être top. C'est attendu pour mi-décembre, juste après la sortie du remake de West Side Story.
Mathieu, on regarde un peu du côté des Français.
Eh bien, à votre avis, beaucoup de comédies, évidemment, notamment Le Lion, porté par Danny Boone et Philippe Catherine. Le duo, à mon avis, ça promet, prévu fin janvier. Juste après, il y aura le nouveau Eric Artigo qui s'appelle Je suis là. Là, c'est joué par Alain Chabat. Puis le nouveau film de Michel Hazanavicius, l'oscarisé. Ça s'appelle Le Prince oublié. C'est Omar Sy qui jouera le rôle principal. Omar Sy que l'on retrouvera d'ailleurs aux côtés de Virginie Efira dans Police, signé Anne Fontaine. Bref, nos stars seront au rendez-vous. Puis on va aussi surveiller du côté des Oscars. On va avoir un petit œil qui traîne parce que Les Misérables, vous savez, le film de Lajli formidable, eh bien, il est dans l'avant-dernière liste pour concourir à l'Oscar du meilleur film étranger. Il en reste 10, ils seront plus que 5. Qui sait, ça cartonne aux États-Unis, ça marche très bien. On sait qu'il a des soutiens là-bas, notamment Spike Lee. Donc, on peut peut-être se prendre à rêver. En tout cas, le film est toujours en salle. Allez le voir pendant ses vacances si ce n'est pas déjà fait.
C'est complet, c'est parfait. Thierry Géfrotac est tout calme.
J'écoutais Mathieu.
Il se remet de son réveillon. Thierry, les théâtres parisiens font leur rentrée en janvier. Deuxième partie de saison avec de nombreuses nouvelles pièces à
l'affiche. Oui, parce que c'est la tradition à Paris. Le théâtre fait 2 fois sa rentrée. La première
en septembre et la deuxième en janvier. Cette deuxième rentrée pouvant se prolonger d'ailleurs jusqu'en février.
Et qui donne le coup d'envoi de cette deuxième rentrée?
Eh bien, c'est Mathilde Amé qui a écrit et met en scène Le Banquet. Ce sera au Théâtre de Paris à partir du 14 janvier. Sur scène, 10 artistes, mimes, danseurs, chanteurs, acteurs d'un banquet burlesque qui va virer au cauchemar. Un spectacle sans dialogue, je dois le dire, mais il y a beaucoup de sens. À partir du 16 janvier, elle et lui, aux nouveautés, un ancien mari se présente au domicile de son ex-épouse.
Ça fait pas une pièce, ça.
Non, ça fait pas une pièce, sauf si Jean, l'ex-mari en question, est devenu Jeanne, une chanteuse de cabaret exploitée par un impresario mafieux. La pièce est signée Isabelle Mergault, qui ne manque pas d'imagination.
Ça intrigue, en effet. Ouais.
Alors, une autre histoire de couple séparé où l'un refait surface, un amour de jeunesse d'Yvan Calberac au Théâtre de la Renaissance, avec Stéphane de Groot et Isabelle Gélinas. C'est à partir du 25 janvier. Histoire, Antoine s'est marié à 20 ans sans le sou avec Maryse. Ils se sont quittés. Alors, Antoine, il a oublié Maryse, mais pas elle. Elle débarque et les retrouvailles donnent une comédie pleine de surprises parce que, évidemment, Antoine n'est plus seul dans sa vie et il a fait fortune. Encore une histoire de couple imaginée, cette fois par David Fuenquinos, 10 ans après, avec Bruno Solo, Julien Boisselier, Ménali Page. C'est des belles affiches. Hein.
Ouais,
alors, faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime? Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme? Faut-il rompre avant ou après le dessert? La réponse à toutes ces questions, à partir du 21 janvier au Théâtre de Paris. Vous voulez une autre belle affiche?
Allez-y, allez-y.
François Berléand et François-Xavier de Maison.
Belle affiche aussi.
Pas mal. Hein.
Ça donne envie.
La pièce s'appelle Par le bout du nez. C'est à partir du 25 février. Alors l'histoire, ou plutôt le duel d'ailleurs, en deux mots, alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président de la République, à savoir François-Xavier de Maison, est pris de démangeaison nasale. Il ne peut pas prendre la parole sans être ridicule, donc il va voir un psychiatre, François Berléand. Ils n'ont qu'une heure devant eux et évidemment, ça va être... Vous imaginez ça. Vous imaginez, voilà. Une autre belle affiche, La Carpe et le Lapin. Une pièce écrite par Catherine Fraud et Vincent de Dienne.
Un dernier événement, Thierry, rapidement. Thierry Lhermitte.
Thierry Lhermitte au Théâtre Antoine. C'est une première pour Thierry Lhermitte, qui s'était juré de ne jamais, jamais monter seul sur scène. Eh bien, il a accepté.
Ça y est, il se lance.
Voilà, il se lance dans Fleurs de soleil, d'après l'œuvre de Simon Wiesenthal. Vous savez, c'était le chasseur de nazis. Une histoire vraie, d'ailleurs, alliant les questions du nazisme et du pardon.
Thierry Geffrotin, Mathieu Charrier, Diane Chinoda, merci à vous trois. On vous retrouve bien sûr avec plaisir très vite sur l'antenne d'Europe 1.
Avec plaisir.
Pour nous faire vivre cette actualité culturelle 2020.
Et merci à vous, Thierry Dagiral. Une bonne année également. Dans un instant, on se penche sur les unes de vos quotidiens. Qu'allez-vous découvrir dans vos kiosques demain? À tout de suite. Et comme promis, on jette un œil sur les unes de vos journaux de demain. Carlos Ghosn à la une des Échos. Le récit d'une incroyable évasion, titre le quotidien. L'ex-patron de Renault-Nissan a quitté clandestinement le Japon pour se réfugier au Liban. Il va échapper à un procès qu'il disait biaisé, mais il risque d'être très longtemps l'otage d'une prison dorée à Beyrouth. L'Opinion également consacre sa une à Carlos Ghosn avec une question: comment l'homme d'affaires a piégé le Japon? L'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan a sans nul doute profité de sa fine connaissance de la culture japonaise pour préparer sa fuite et la mettre à son profit, écrit le journal. À lire dans La Croix, les fractures de l'Église américaine. Aux États-Unis, les critiques des catholiques conservateurs contre le pape François s'expriment de plus en plus ouvertement. À découvrir également dans La Croix, l'édito de Florence Courret. Il y est question d'Emmanuel Macron et de ses vœux adressés hier aux Français. S'il fallait résumer en une phrase les 20 minutes d'intervention du chef de l'État, elle pourrait être celle-ci, écrit Florence Courret. Au mi-temps de mon mandat, je ne compte pas lever le pied sur les réformes, à commencer par celle des retraites, mais je poursuivrai dans un souci d'apaisement, l'essentiel étant aujourd'hui de restaurer l'unité de la nation. Albert Camus à la une du Figaro. 60 ans après sa mort, les œuvres de l'auteur sont plus actuelles que jamais, comme en témoigne un document inédit sur l'engagement des intellectuels que publie le journal Demain. L'écrivain algérien Karim Daoud souligne notamment la place qu'occupe encore aujourd'hui l'auteur de La Peste et de l'Étranger. Ouest France vous présente ses meilleurs vœux avec un dessin de presse sans équivoque. 2020, faisons les bons choix, accompagné de deux planètes Terre, l'une très polluée, l'autre peuplée d'animaux sous un soleil radieux. Un appel à la conscience écologique et environnementale. Ces femmes qui marqueront l'année en une du Télégramme, Greta Thunberg, Christine Lagarde ou encore Nicolas Sturgeon, pour ne citer qu'elles. Le quotidien breton se focalise sur ses personnalités. Et puis le mois sans alcool à la une du Parisien aujourd'hui en France. Après les fêtes de fin d'année, nombreux sont ceux qui se lancent le défi. Un challenge créé en Angleterre et qui séduit de plus en plus de Français. À découvrir dans Le Parisien, quelques conseils pour résister. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes des journaux que vous retrouverez demain dans tous vos kiosques. Encore une très bonne année à tous à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Sophie.
Et je vous souhaite une très bonne émission. Les auditeurs peuvent toujours vous appeler au même numéro, le 3921.
D'accord, et à tout à l'heure Sophie
pour
le flash.
À tout à l'heure.
Au revoir.